Bienvenue, je te passe je laisse la place pour
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien?
Bonjour.
On t'entend bien.
Bonjour, très bien.
Ok. Voilà. Donc nous allons. Donc c'est une joie pour moi et une joie pour nous tous d'ailleurs de nous retrouver et cette possibilité que le Seigneur nous donne de faire passer ces moments ensemble. Alors, coronavirus, où est Dieu? Donc, coronavirus, où est Dieu? Donc, c'est le titre d'un livre qui a été écrit en 6 jours par John Lennox. John Lennox, c'est un enseignant, c'est un professeur d'université, c'est un anglais. Donc, il a écrit, il a réfléchi dans ses bouquins. D'ailleurs, donc, c'est un livre d'évangélisation qui a été donc traduit par BLF Édition. Alors, dans ce livre, il pose un certain nombre de questions. Comment trouver du sens à une pandémie si menaçante que la vie est au point mort à cause d'elle? Où est Dieu? Comment a-t-il pu permettre cela? Le professeur Lennox a rassemblé son expertise scientifique et le zèle de sa foi chrétienne pour réfléchir à notre situation effrayante. Il continue, il dit ceci, « Aujourd'hui, de moins en moins de gens possèdent la moindre notion de Dieu dans leur vie. » Et c'est qu'il a tout à fait raison parce que la situation de notre monde aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent le dos à Dieu. Et il continue, comme partout dans le monde, les églises sont fermées pour limiter la propagation du virus. Beaucoup se demandent où est Dieu, c'est-à-dire s'il existe vraiment, s'il est aussi confiné dans une sorte de quarantaine inaccessible, où trouver une véritable consolation, où trouver un remède, un véritable espoir. Et il continue à dire, les questions fondamentales jaillissent sans cesse. Elles s'engouffrent peut-être dans votre esprit comme un torrent. Pourquoi cela m'est-il ou leur est-il arrivé? Pourquoi ont-ils été infectés? Et sont-ils morts alors que j'ai été épargné? Qu'est-ce qui soulagerait ma douleur physique et mentale? Et il termine à dire, y a-t-il de l'espoir? Chers amis, à cette question, j'ai envie de vous dire, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc nous allons, je vous propose que l'on puisse lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, et l'apôtre va nous parler justement de la nécessité des épreuves. L'apôtre nous montre là que les épreuves sont nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je vais lire dans la parole vivante. Réjouissez-vous à cette pensée.
Un Pierre
1. Versets 6 à 9.
D'accord.
Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes, compris de votre foi. Donc, au verset 5, le verset 3 à 5, pardon, et l'apôtre montre ce que fait notre joie. Alors, qu'est-ce qui fait notre joie? Pierre va énumérer, quant à notre passé, la miséricorde de Dieu a effacé ce qui ne devait pas subsister. Il va dire encore, quant à notre avenir, un héritage nous est préparé, garanti. Quant à notre présent, nous goûtons à cet apaisement apporté à notre conscience par la grâce miséricordieuse. Nous vivons déjà de la vie à venir. Nous sommes régénérés. Et il va encore, qu'est-ce que doit encore faire notre joie? Il va nous montrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection corporelle de Jésus au matin de Pâques et la vie même de notre espérance au-delà de la mort. Car à ces faits incontestés s'attache, chers amis, une promesse. Une promesse, comme le dit Paul dans Romains 8, verset 11, il dit ceci, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Chers amis, cette promesse, comme les autres, trouvera son accomplissement. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, dans Jean 14, 19, et en cherchant à encourager ses disciples, il leur a dit ceci. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Christ vainqueur de la mort, il est monté. Il est monté au ciel. Il y a entraîné notre nature régénérée, notre nature complétée, réhabilitée. Il est le prémisse de l'humanité nouvelle à laquelle l'héritage est réservé. Alors, dès lors, chers amis, il n'est au pouvoir d'aucune puissance de porter atteinte à notre espérance vivante. D'aucune puissance, même le coronavirus, ne peut pas porter atteinte à notre espérance vivante. La mort elle-même, y trouve sa défaite, comme nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, chers amis, il y a de quoi se réjouir jusqu'en tressaillir, comme l'apôtre Pierre nous le présente. Les chrétiens sont appelés à vivre dans ce monde, à y connaître les dures nécessités que chacun y rencontre et à les y connaître avec d'autant plus de finesse qu'il est précisément porteur de cette joie. Donc les chrétiens porteurs de la joie que nous devons partager, transmettre à d'autres. Alors nous allons réfléchir ensemble aussi sur trois questions que ces textes nous proposent, nous donnent des réponses. De quelle tristesse est-il question? Donc au verset 6, il est question, réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse. Et la deuxième question, pourquoi faut-il ces diverses épreuves? Ou en d'autres termes, pourquoi ces épreuves sont-elles nécessaires? C'est le verset 7 qui nous donne la réponse. Et qu'est-ce qui rendait la joie aux chrétiens auxquels Pierre s'adressait? Les versets 8 et 9. Alors, de quelle tristesse est-il question dans ce verset, comme Pierre nous le dit au verset 7, au verset 6? on vient de lire, ce qui fait la joie du chrétien ne vient nullement du monde. Notre joie vient de Dieu. Le monde aime ce qui est du monde, ce qui s'acquiert par le fort, par le mérite, par toute espèce de moyens propres et qui ne le sont pas toujours, n'est-ce pas? Le monde étant ce qu'il est, corrompu, souillé, flétri, il n'aime pas ce qui vient de Dieu. Le monde aime ce qui est du monde, il n'aime pas ce qui vient de Dieu, pardon, parce que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, pardon, et les choses de Dieu viennent mettre en cause les personnes, les êtres et les choses. Et aussi, les chrétiens réjouis trouvent-ils sans cesse occasion d'être contrariés, occasion d'être affligés, mis à l'épreuve par le monde dans lequel ils continuent de vivre comme hommes régénérés. Cette affliction est donc inhérente à notre condition de chrétiens vivant en ce monde. Et il est bon de le préciser, le chrétien n'est jamais un héros appelé à se surpasser. Le chrétien ne veut pas dire « je ne veux pas appliquer de mesures de protection parce que moi je suis déjà régénéré, donc le coronavirus ne me fera rien. Hein? » Ça sera vraiment bête de penser et de cette façon-là. Il n'est jamais un héros appelé à se surpasser. Si la grâce de Dieu ôte le péché, cher ami, elle ne détruit pas la nature. Les chrétiens régénérés restent un simple homme. Et il n'en a point de honte. D'ailleurs, l'apôtre dit loyalement à ceux qui sont dans l'épreuve, « Vous êtes attristés. » Et il s'égarde bien de leur en faire reproche. Il ne le reproche pas. Parce qu'il sait très bien que ce ne sont pas de héros, ces chrétiens. Il serait pour le moins étrange que la foi détruise ou atténue notre sensibilité. Imaginez-vous, chers amis, que quand j'étais contaminé par ce virus et avec la fièvre et que je ne sois, que je reconnais, je dis que non, je n'ai pas mal. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas atteint par ce virus. Imaginons ça. Si nous ne sommes plus sensibles, au reste, comment naîtrait ou grandirait la patience au fruit de l'esprit? Si nous ne sommes plus sensibles à la souffrance que nous pouvons connaître ou subir. Chez celui qui serait devenu insensible à la souffrance elle-même, sinon encore, à celle que les autres lui infligeraient. Donc, les chrétiens doivent être sensibles, justement, à la souffrance, à tout ce que nous pouvons endurer. Mais cette affliction toute humaine n'a rien d'une tristesse selon le monde. Celle-ci est faite de dépit, d'orgueil, froissé, de vanité dessus, d'ambition abattu. La tristesse, selon Dieu, est une communion aux souffrances du Christ devant la méchanceté de l'homme et l'horreur du péché. Alors, cette tristesse-là, c'est que l'apôtre est en train de dire, cette tristesse-là se trouve limitée dans le temps, parce qu'il le dit, réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement, vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelques temps. Donc, ça dure un peu de temps. Alors, pour un peu de temps, vous savez que Dieu a d'autres mesures par rapport à nous. Dieu par rapport aux nôtres. Il se peut que l'épreuve paraisse longue. Nous sommes déjà en train de se dire le confinement dure trop longtemps. Il est temps que l'on sorte. Mais Dieu a sa façon de mesurer les choses. Encore faut-il préciser que cette longueur peut être très relative. Paul va dire aux Romains, dans Romains 8, verset 18, il dit: il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Et dans le psaume 90, il dit que 80 années passent rapidement. De toute manière, chers amis, il est promis dans l'Écriture avec l'épreuve, Dieu prépare aussi les moyens d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, de toute manière, dans notre confinement, nous savons que Dieu est là et il a préparé les moyens d'en sortir. Alors, pourquoi faut-il ces épreuves? Pourquoi ces épreuves sont-elles nécessaires? Le verset 7 nous dit ceci: elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaît un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu permet que des épreuves arrivent, arrivent à ses enfants pour tester leur foi. Alors on peut se poser la question, aurait-il des doutes sur la foi de sien? Lui qui connaît toutes choses? Non, cher ami. Mais il permet les épreuves quand cela est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elles servent d'abord à révéler à ceux qui sont éprouvés si leur foi est réelle, solide, en faisant l'expérience de la proximité de Dieu. L'épreuve de notre foi dévoile nos dispositions profondes à ce qu'il y a au fond de notre cœur pour Dieu. Si nous passons les tests avec succès, nous avons l'assurance que notre foi est authentique. Cette épreuve aura sa récompense, chers amis. Le Seigneur donnera honneur et gloire à ceux qui ont accepté les diverses épreuves dont parle l'apôtre Pierre. La récompense tournera en fruit éternel pour le croyant quand il nous fera les compagnons de sa gloire. Tout ce que le monde a rejeté seront alors clairement manifestés comme étant fils de Dieu. En attendant, Dieu nous teste aussi pour déjà mettre en lumière, aux yeux des autres, la valeur que nous avons. John Lennox, dans ses livres « Dieu, ouais, coronavirus, où est Dieu ?» il dit ceci: « En temps de crise, ce que nous recherchons, c'est de l'espoir. » Il cite un article, dans un article du New York Times du 10 mars 2020, le journaliste italien Mattia Ferraresi a écrit: l'eau bénite n'est pas un gel hydroalcoolique et la prière n'est pas un vaccin. Mais pour les croyants, la religion est une source fondamentale de guérison spirituelle et d'espoir. C'est un remède contre le désespoir. Elle apporte le soutien psychologique et émotionnel qui fait partie intégrante du bien-être. Il dit encore, c'est aussi un antidote à cette solitude qui est un problème de santé publique le plus inquiétant de notre époque, selon plusieurs experts médicaux. À un niveau plus profond, La religion pour les adorateurs est la source ultime des sens. Donc, vous voyez que quand Dieu nous teste, donc il met en lumière aux yeux des autres la valeur de la foi que nous avons.
Amen.
Il met la valeur de la foi que nous avons. Donc, les autres voient que le chrétien, ou celui, parce que là, il parle de catholiques qui s'appuient sur l'eau bénite, mais on prend cela, le chrétien est celui qui porte l'espoir.
Amen.
Pourquoi? Parce qu'il appartient à l'Éternel, le Créateur, celui les très hauts, celui qui est au contrôle. Notre Dieu n'est pas confiné, notre Dieu n'est pas en quarantaine. Il Amen. Est au contrôle justement de tout. Et si on lit ces versets, on voit que l'apôtre nous donne aussi d'autres raisons pour mesurer notre foi. Les épreuves sont nécessaires. La révélation biblique dénonce la croyance au hasard, à la fatalité, au sort aveugle et inintelligible. Je suis l'Éternel, j'ai créé l'adversité, dit l'Éternel dans Ésaïe 45, verset 7. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, dit Jérémie dans Lamentation 3, verset 38. Les vicissitudes du croyant fidèle ont un sens, cher ami. Dieu le veut, Dieu le permet. Et le permet pourquoi? Pour justement mesurer notre foi, pour rendre notre foi plus efficace. C'est dans l'épreuve que se manifeste l'authenticité de la foi. C'est ainsi que Dieu peut dire à Abraham dans Genèse 22, verset 12, « Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Mais pour un temps, pour un Abraham manifesté comme authentique croyant, combien de croyants jarba Alam dans Nombre 22, qui ne croient que pour un temps et succombent au moment de l'épreuve parce qu'ils n'ont point de racines, comme le dit la parabole des terrains dans Luc 8, verset 13. Chers amis, je veux savoir quelles sont les vraies dispositions de notre cœur. Quand la foi n'est plus seulement un credo admis par l'intelligence, mais aussi en même temps une communion au Christ vivant. Elle se fortifie dans l'épreuve. La foi se fortifie dans l'épreuve. Lorsqu'elle n'est plus considérée comme un credo. Et l'apôtre continue à nous montrer justement d'autres raisons qui font dire que les épreuves sont nécessaires pour épurer notre foi. Comme l'or, un affineur d'or du temps ancien, auquel on demandait sur quoi il s'est basé pour déterminer le moment de laisser refroidir le métal en fusion, répondait: lorsque toutes les impuretés sont montées à la surface et que je les ai éliminées, alors l'épuration est terminée. Je m'en rends compte parce que je peux voir mon visage se refléter parfaitement sur la surface de l'or fondu. Chers amis, cette réponse, souvent rapportée, est une belle image du travail de Dieu en nous. Il emploie l'épreuve si cela est nécessaire, s'il le juge bon pour notre croissance spirituelle, pour éliminer ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ, en particulier notre orgueil et nos prétentions. Nous pouvons avoir autant d'orgueil pensant que nous sommes bien, nous pouvons diriger nos vies nous-mêmes par nous-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Et l'apôtre va nous montrer aussi que pendant cette période de épreuve, c'est pour la raison, l'autre raison, pour augmenter notre foi. Les vicissitudes du croyant sont aussi comparées aux difficultés d'un combat, dans une épreuve sportive ou autre chose, les obstacles accumulés et surmontés révèlent la qualité de préparation pour un athlète. Le dévouement, l'adaptation du concurrent, un athlète va voir tout cela. Mieux il triomphera des difficultés, plus grandes aussi seront les récompenses. Hein? Donc, voyez que la foi, les épreuves, l'apôtre nous montre qu'elles sont nécessaires pour justement augmenter notre foi comme les athlètes. Ils vont travailler. Donc, ça demande de quoi? De la persévérance. Quand nous sommes face à l'épreuve, ne nous laissons pas abattre. Nous devons persévérer parce que nous savons qu'est-ce qui nous attend au final. Oui, aussi pour manifester notre foi, nous dit l'apôtre. Enfin, Dieu permet les épreuves pour manifester sa compassion afin qu'à notre tour, nous puissions fortifier les autres. Nos souffrances ne sont pas gratuites. Elles servent à nourrir notre foi, à la purifier, à la fortifier. Elles nous apprennent à ne compter que sur Dieu. Elles nous détachent du monde. Elles nous rappellent qu'un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, nous est réservé dans le ciel, dans les cieux. Dieu mesure la souffrance, chers amis. Il mesure la souffrance qui résulte des épreuves. Aucune larme, aucune de nos larmes n'est inutile. Oui, aucune de nos larmes n'est inutile, chers amis. Elles nous apprennent à ne compter que sur Dieu. Oui, je fais couler des larmes. Pendant les 3 semaines où j'étais complètement abattu, j'ai fait couler des larmes, chers amis. Et ces moments-là, c'est un moment où cette foi est mise à l'épreuve. Vous pouvez dire, vous commencez à douter même. Et que quand je disais, Charlotte, on prenait la température. Je lui dis, mais ton thermomètre, alors je dis même ton thermomètre, ce n'était plus notre thermomètre, mais c'était ton thermomètre, il n'est plus bon, il faut aller acheter un autre. Parce que ton thermomètre me donne que 39-40 de fièvre, et chaque fois c'est la même chose. Vous voyez ça? Donc ça veut dire que la foi est mise à l'épreuve, et à ce moment-là, tu as des larmes qui coulent. Tu dis, mais qu'est-ce que je devais devenir? Où je vais avec ça? Mes chers amis, voilà l'encouragement. Et c'est ce psaume 58 qui nous dit quoi? Tu comptes mes allées et mes venues. Mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? Et Dieu voit cela. Dieu voit cela. Il voit ces moments-là. Il met nos larmes dans son livre. Quel encouragement de savoir que le Seigneur est au contrôle. Même quand ça ne va pas, il est celui qui change le mal en bien. Oh, chers amis, persévérons. Ne nous laissons pas abattre. Le confinement, notre Dieu n'est pas confiné. Notre Dieu est au contrôle de tout. Alors, qu'est-ce qui pouvait rendre la joie aux chrétiens auxquels Pierre s'adressait? Versets 8 et 9. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. À cause de lui, vous êtes transporté de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés dit, remportez le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Ce n'était certes pas les circonstances qu'il traversait qui rendaient joyeux le chrétien auquel Pierre s'adressait. La suite de la lettre montre qu'il vivait dans des conditions difficiles au milieu d'une population plutôt malveillante. Vous savez, ils se sont convertis au christianisme en quittant le judaïsme. À cause de cela, ils ont quitté les traditions. À cause de cela, ils étaient persécutés. Ils étaient dispersés partout parce que la peur d'être persécutés. Donc, on peut dire aussi qu'ils étaient confinés dans là où ils étaient cachés pour ne pas être retrouvés et persécutés. Et alors, on peut se dire dans ces conditions, mais d'où venait cette joie? Ce qui faisait leur joie, chers amis, c'est d'avoir trouvé en Jésus-Christ un sauveur qu'ils aimaient. Ne les avait-il pas débarrassés de leurs péchés, libérés de leur esclavage de la loi et des commandements humains, et dotés d'une espérance merveilleuse? Leur univers ne se bornait plus aux choses de cette terre, mais s'étendait au domaine céleste, celui où Christ se tient maintenant. Leur joie était donc ineffable, nous dit l'apôtre, et glorieuse. Je me suis arrêté sur ces deux termes, ineffable et glorieuse. C'est quoi la foi? C'est quoi la joie ineffable? La joie ineffable, on peut dire que cette joie était tellement profonde qu'elle ne pouvait être pleinement exprimée par des paroles humaines. La joie qui le remplissait était inaccessible à ceux qui n'en ont pas fait eux-mêmes l'expérience, car elle est d'un autre ordre que la joie qu'on peut trouver dans le monde. Ce n'était pas une joie qui dépend de mon état de santé. Si ta joie dépend de ton état de santé, laisse-moi te dire que quand tu es déjà en plein dedans, eh bien, tu n'auras pas la joie. Je peux vous dire que je n'avais pas la joie. Je ne pouvais pas sourire, j'avais la souffrance. Hein? Si ta joie dépend de ce que tu as dans ton portefeuille, laisse-moi te dire que le monde est perturbé, le grand bousculé. Et ils vivent dans l'angoisse permanente de savoir que après cette situation, l'économie va tomber. Donc, chers amis, suivons l'exemple de ces frères et sœurs qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Leur univers ne se bornait pas aux choses de cette terre, mais s'étendait au domaine céleste, celui où Christ se tient maintenant. Non. Cette joie provient de la communion avec les seigneurs maintenant dans le ciel, mais si près de chacun de ses rachetés. Oh, cher ami, peut-être que le confinement devient lourd à supporter. Laisse-moi te dire, reste en communion avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est proche de toi. Il n'est pas loin, notre Dieu. Il est là, dans notre proximité. Il est là, chers amis. il nous rassure de sa présence permanente. Et cette joie, elle est glorieuse. Pourquoi? Pour trouver quelque chose de glorieux, il faut se tourner vers le ciel. Dans tout le paragraphe, l'apôtre Pierre s'emploie, inspiré par le Saint-Esprit, à diriger les pensées des croyants vers l'avenir céleste qu'ils ont en héritage. Nous avons un héritage, chers amis, hein, cet héritage qui nous attend vers notre Père. Lorsque nous réalisons par la foi la gloire qui nous attend, comment notre joie ne serait-elle pas glorieuse? Comment notre joie ne serait-elle pas glorieuse? Parce que notre espérance ne dépend pas de bien de ce monde. Notre espérance est en Christ. Voilà pourquoi. Alors, nous devons avoir la joie, n'est-ce pas? La joie même si les choses sont dures. Parce que notre joie ne dépend pas de tout ce que le monde nous propose. Il nous est dit du Seigneur Jésus, dépeint comme celui qui marche en tête de la multitude de croyants, qu'il a enduré la croix. Giuliano, dans sa présidence, il nous a lu Hébreux 12, verset. Donc moi, je vais vous lire cela. Verset 1 à 3. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et en lance si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Au verset 3, pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eue à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Chers amis, ne nous laissons pas abattre par le découragement. Regardons, fixons nos regards vers Jésus qui est notre modèle, qui est le chef de file, qui est celui qui a enduré la mort de la croix. Pourquoi? Par cause de la joie qu'il attendait auprès de son Père. Je vais seulement terminer là pour dire tout simplement, retenons que l'apôtre nous montre que les épreuves sont nécessaires pour mesurer notre foi, pour épurer notre foi, pour augmenter notre foi, pour valoriser notre foi et pour manifester notre foi. Chers amis, une foi qui est déjà, qui subit de telles épreuves, on peut dire que la véritable foi est indestructible. Le croyant peut passer par des tests et des épreuves sévères, mais au lieu de détruire sa foi, ces épreuves deviennent une nourriture pour sa foi. À l'exemple de Job. Job a subi probablement en un jour de plus lourdes pertes que n'importe quel autre homme dans l'histoire du monde. Mais, vous savez, il a fait cette déclaration. Il a pu dire, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Job 13, verset 15. Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Quand même il y a coronavirus, je ne cesserai d'espérer en mon Dieu.
Amen. Alléluia.
Je cesserai d'espérer en mon Dieu. Je vais encore citer John Lennox parce que c'est le livre que je suis en train de le lire et c'est un livre que je vous recommande pour vraiment l'évangélisation de cette période. Et BLF Édition fait la promotion. Donc, si nous commandons 39, parce que le livre coûte 5,90 €, mais si on commande 10, donc c'est à 3 €, donc 10, ça fait 39 €. C'est pour justement donner, mettre dans des boîtes aux lettres en ce moment de coronavirus. Alors, il dit ceci, comprenez juste que Dieu n'est pas déconcerté par le coronavirus. Il peut travailler en vue du bien, même dans le mal. Ses plans ne seront pas contrecarrés par le mal. Bien sûr, dans des situations comme la crise actuelle, ces vérités ont du mal à passer. Mais en même temps, nous sommes responsables de nos propres façons de réagir à la crise et les uns envers les autres, car il nous a donné la liberté de le faire. Oui, chers amis, ça dépend de nous. Comment nous réagissons face à la crise? Nous nous appuyons sur notre Dieu ou nous nous laissons abattre? Nous fixons nos regards sur Jésus ou nous considérons la situation dans laquelle nous nous trouvons? Cela dépend aussi, dépend de nous. Alors, pour une question pour l'application personnelle, quelles imperfections je découvre mêlées à l'or de ma foi, à l'or de votre foi? Oui, ça peut être l'orgueil, la prétention et ou autre chose. Chacun de nous peut se poser cette question. Quelles imperfections mêlées à l'or de notre foi? Voilà, chers amis, nous terminons, nous arrivons à la fin et je vais prier. Éternel Dieu, notre Père, merci. Merci, Père de gloire, parce que tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Tu es notre Dieu. Nous savons que la tristesse que nous avons, c'est la communion aux souffrances du Christ. Nous voulons te bénir parce que Christ est notre modèle. Il a enduré la souffrance jusqu'à la mort de la croix pour justement vivre la joie qu'il attendait au ciel. Et nous voulons aussi, cher Père, nous appuyons sur toi. Renouvelle nos forces, Père de gloire. Tu connais l'état de chacun de nous. Si nous sommes déjà abattus, relève-nous pour que nous puissions encore continuer à persévérer, à fixer nos regards sur Jésus. Ô Dieu de gloire, permets que nous puissions tenir ferme pour que notre foi, qui est plus précieuse que l'or, puisse augmenter et que cette foi puisse se manifester dans le monde, afin que le monde voie que malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, les chrétiens sont dans l'espoir qui dépasse tout entendement humain. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, parce que tu es l'Éternel, tu es le Très-Haut, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. Tu n'es pas un Dieu confiné, tu es un Dieu victorieux, tu es un Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Oui, c'est en toi, Père de gloire, que nous plaçons toute notre confiance. C'est en toi, notre Père, toi qui prends soin de nous à chaque instant. Père, tu connais le besoin de chacun de tes rachetés. Merci de manifester ta gloire. Merci de révéler justement d'une manière particulière ta présence dans la vie de chacun. Père, je te bénis, je te prie aussi pour des personnes qui ne te connaissent pas, qui ont pu suivre ce message. Révèle-toi à eux, qu'ils puissent tourner le regard vers toi, Jésus. qu'ils t'ouvrent leur cœur pour que tu puisses régner en maître. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci.
Amen.
Amen.
On peut continuer.